Je dois dire que Yannick est fraîchement rasé. Ce n'est pas pour des mesures
non, mais
de sécurité.
Moi, je dois me raser sérieusement 2 fois par jour. Tu sais, je...
parce que pour sinon, avoir l'air d'un gars rasé.
Oui, mais j'ai écouté ton entrevue quand c'est rendu que même le délégué syndical trouve ça drôle.
Ouais.
Là.
Ouais, c'est
ce que mais qu'est-ce que tu veux? T'sais, on est dans un pays de droit.
On est là. Juste pour rire, on a passé la gratte hier. Les 4 sœurs Roson, c'est fini. Elles sont parties.
Ouais, c'est un grand ménage. Les 4, moi, je pensais même pas qu'il y en avait 4. Il y en a qui sont un petit peu plus dans l'ombre, là, mais Luce, Lucie, Constance, Martine. Mais il n'y a pas qu'elle, parce qu'on dit que il y a 3 autres personnes. Guylaine Lalonde qui assurait une espèce d'intérim qui avait remplacé Gilbert Roson. Alain Cosineau, le VP. Bruce Hill, qui semblait quand même aimer des humoristes qui s'occupaient du pendant anglophone de Juste pour rire. Et moi, je trouve que c'est pas surprenant. Je pense que, particulièrement dans le cas des sœurs Roson, c'était nécessaire. Les nouveaux propriétaires doivent démontrer qu'il y a un vrai changement. Que t'as pas acheté l'entreprise et ils t'ont passé le trousseau de clés. Le lundi matin, tu débarres la porte et c'est comme si rien n'avait changé, sauf les actionnaires.
Mm-hmm.
Alors, il fallait faire ça, ne serait-ce que pour t'occuper, pour bien gérer ta matière première, qui sont les humoristes. Parce que moi, je voyais qu'on entendait un malaise. On entendait un réel malaise en disant, est-ce que je vais participer à Juste pour rire? Parce que maintenant, il y a un compétiteur, l'espèce de gros Montréal Comedy Fest organisé par Martin Petit, les humoristes, etc. J'ai même entendu un humoriste, bon, c'est peut-être un des plus crus, là, Guillaume Wagner, mais dire en entrevue, les sœurs Roson, là, c'est des bibip de folles de classe mondiale parce qu'elles défendent leurs frères sur les réseaux sociaux. Il y avait un malaise à ce moment-là. Et quand on leur posait la question, allez-vous participer à Juste pour rire, on sentait que ça patinait comme des politiciens.
Moi, des employés, là, j'ai des amis.
Oui.
Qui ont travaillé pour le groupe ou qui travaillent pour le groupe.
Oui.
Et m'ont confié sous le couvert de l'anonymat. Allons-y de façon polie. Les sœurs Roson avaient une gestion difficile, serrée.
Mais peu importe ce qu'on peut penser d'elles, c'est un peu normal lorsque arrivent d'autres dirigeants, d'autres propriétaires,
oui,
de vouloir mettre en place leur propre monde. Et d'autre
ça arrive
part,
partout. Hein,
tu vois jamais, que les gens qui ont grainé dans un château restent là et deviennent fous du roi. Là, ça
en plus, appelons les choses telles qu'elles sont. C'est une entreprise familiale. M. Roson nomme ses sœurs au poste de direction.
Ça paraissait d'un salaire, il paraît aussi.
Aussi, puis ce qu'on veut pas, c'est que, tu sais, cette espèce, parce qu'à un moment donné, on disait que les sœurs, comme tu le disais, Yannick, qui défendaient leurs frères, ils avaient vu des choses, ils avaient entendu des choses, et il y avait une espèce d'omerta autour de ça. Alors, on veut faire table rase de cet environnement,
de cette
atmosphère
oh, oui,
qui sent pas très bon, finalement. Mm-hmm. Et c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est la moins grosse surprise de la semaine, en réalité, à mes yeux, à moi. C'est quelque chose qui se fait quotidiennement lorsqu'il y a une reprise d'entreprise. Mais dans ce cas-ci, on veut montrer patte blanche jusqu'au bout pour encourager, justement, les humoristes à faire des affaires avec eux.
Oui, puis moi, je vois souvent ça dans des transferts d'entreprise où il y a des vœux pieux au début, c'est... Hey non, on va le garder, il y a une expertise. Ça dure quelques mois dans le pire des pires parce qu'on se rend compte qu'il y a un choc des valeurs. Quand tu achètes une entreprise, tu veux la mettre à ta main, même s'il y a beaucoup de bonnes choses qui étaient faites par Juste pour rire. Mais tu veux montrer que c'est toi qui les commandes maintenant.
Sauf si, par exemple, tu décides d'acheter une entreprise et que dans le contrat d'achat, tu mets explicitement que tu veux garder telle personne parce que tu sais pertinemment...
Les personnes clés.
Ce sont les personnes pivots et
nostalgiques. Achètes-tu leur expertise?
Absolument.
Ben oui, là, ça
arrive. Parce que si ces gens-là partent, l'entreprise vaut 2 fois moins. Et ça, on voit ça aussi très souvent.
L'autre bonne chose qui va te donner bonne conscience probablement à beaucoup d'humoristes, c'est la prise de possession, en tout cas de 51% des parts par Bell & Vinco. Là, t'as plus l'impression que c'est le gros méchant étranger qui arrive, qui...
Mais il y avait besoin de ça pour les subventions aussi.
Ben, oui, ouais, c'était une question de subvention, sauf que ça va aider aussi de dire, bon, mais là, le contrôle n'est pas juste à des Canadiens anglais ou n'est pas juste à des gens de l'extérieur de la province. Alors ça va être bon parce que là, tu sais, il y a des humoristes dont la carrière était gérée par Juste pour rire. T'es un jeune humoriste, là. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Toi, tu veux une carrière? T'as signé avec eux. J'avais entendu François Bellefeuille, à un moment donné, qui défendait. Non, c'est André Sauvé. André Sauvé qui disait, ben moi, là, j'ai toujours été bien servi par eux autres, mais on sentait qu'il y avait vraiment.
Son agente, à lui, d'ailleurs, c'était une.
Oui, c'est une Roson. C'est une Roson. Et lui, il disait, ben là, moi, j'ai toujours été bien servi. Je faisais pas affaire avec Gilbert Roson. Sauf qu'il fallait vraiment marquer une transition importante. Il fallait qu'il y ait une cassure là-dedans pour pouvoir assurer la pérennité. Voilà.
Tout à fait. Robert Poëty,
lui aussi, il a fait une cassure.
un coup de bâton de baseball en arrière de la tête, je pense que ça peut ressembler un peu à ça. Il a annoncé son départ sur Facebook?
Ben, en fait, non. Il l'a annoncé au caucus.
Au caucus d'abord.
Par la suite, il l'a annoncé sur Facebook, mais disons que ça s'est fait très rapidement après. Là où je trouve que c'est inélégant de la part de M. Poizzi, puis il peut dire ce qu'il veut en disant « tout le monde est pareil autour du caucus, là on est tous des députés, même le premier ministre », mais normalement, lorsque tu décides de quitter la première personne, que ce soit en entreprise ou en politique, que tu te dois d'aviser, c'est le patron. Il ne l'a pas fait. Et je regardais aussi la réaction de ses collègues, ministres et députés. C'était comme s'il y avait un vent de soulagement qui semblait vouloir flotter, mais en même temps, c'était facile pour les libéraux de dire « ben ça va nous permettre d'amener du vrai changement ». Alors que ça a pris tout le monde par surprise. Moi, je pense que M. Poizzi, malheureusement, il aurait dû faire les choses autrement. Est-ce que c'était prévisible jusqu'à un certain point? Oui, parce qu'on le sait que depuis 2016, quand il avait perdu le ministère des Transports, les choses n'étaient pas très jojo entre lui notamment, puis certains de ses collègues, et particulièrement avec Philippe Couillard.
C'est ça. Moi, j'ai été très étonné de la façon de faire de M. Poitier parce qu'il s'est toujours comporté dignement dans les pires épreuves. Quand on lui a enlevé le ministère des Transports, ça n'avait aucun sens qu'on lui enlève ce ministère-là. Pourquoi on lui a enlevé? Parce qu'il faisait juste sa job. Il voulait faire sa job. C'était le gars de l'intégrité. C'était le gars qui posait peut-être trop de questions. Mais on n'en pose pas trop de questions quand on veut faire un vrai ménage.
En fait, il mettait en relief, des choses que le gouvernement ne voulait pas qu'il mette en relief, justement. Parce que ça amenait la population à se questionner.
Bon. Mais il a fait les suites de la commission Charbonneau.
Oui,
il le faisait.
Mais c'était sa job, en fait. Moi, je suis d'accord avec Janine.
Oui, c'était son travail.
On devrait en avoir plus, des gens comme ça.
Effectivement, et ce gars-là était aimé du grand public. Il n'y a pas tant de ministres que ça que tu peux dire. D'ailleurs, ils l'ont ramené pour lui donner un ministère bidon. Ça servait à quoi, ce ministère-là, de l'intégrité, là, depuis qu'on a fait le remaniement? Il ne s'est pas passé grand-chose là-dedans. Mais M. Poitier, l'impression qu'il donne, c'est qu'il a ruminé depuis ce temps-là. Et il s'est dit, un jour, je vais avoir ma chance.
C'est ça.
Et il aurait voulu nuire au premier ministre, qu'il n'aurait pas pu faire autrement.
Il en demeure pas moins que c'est le 15e là, qui s'en va. Peu importe les raisons, la façon de le faire.
C'est le 15e qui s'en va. Et moi, je me suis rappelé d'une chose. Quand tu recules dans l'histoire, moi, j'écoute beaucoup de documentaires. Puis à un moment donné, il y a un gars qui avait pris les commandes du Parti libéral qui s'appelait Claude Ryan. Claude Ryan, il a gagné le référendum en 80, mais en 81, il s'est fait battre solidement par le Parti québécois. Et quand il s'est fait battre, il n'y avait personne pour l'aider. Pourquoi? Il y a un gars, à un moment donné, dans son entourage, qui a dit « Monsieur Ryan pensait que la loyauté, ça s'imposait. » Il dit « ça s'imposait. » Le respect, ça s'impose, mais la loyauté, ça se mérite. Et j'ai l'impression que M. Couillard, là-dessus...
Je pense que le respect, ça se mérite aussi.
Ben, ça se mérite aussi, mais...
Si tu traites les gens avec respect, en général, les choses te sont rendues.
Mais je sens que M. Couillard, la loyauté, et j'écoutais Sylvain Lévesque, disait, M. Charest, là, il l'avait ça, puis c'est vrai, parce que moi, j'ai déjà demandé à quelqu'un, qu'est-ce qui te fait triper tant que ça sur Jean Charest, franchement, là. Et a dit, lui, ça peut faire 2 ans qu'il t'a pas vu, il te voit dans un congrès, il se rappelle de ton nom, il se rappelle de qui tu es. J'ai l'impression que M. Couillard n'a pas ça. Au Parti québécois, par exemple, M. Landry ne l'avait pas non plus. Tu sais, il n'y avait pas cette chaleur-là. M. Bouchard, avant, l'avait.
Un peu de charisme aussi.
Peu de charisme. Alors là, j'ai l'impression que quand ça brasse, les gens sont plus là. Tous ces départs-là, s'ils étaient arrivés il y a un an, là, à un an des élections, je pense qu'on aurait envisagé la possibilité...
Changer de chef.
Sauf qu'on ne peut pas faire de couronnement.
On n'a pas le temps
parce que là, tout le monde a l'air à vouloir être chef au Parti libéral. Mais s'il y avait une personne qui se démarquait, ben, je pense qu'on l'aurait envisagé. En tout cas, une chose est sûre, il y a un congrès en fin de semaine, là. Toutes les caméras vont être tournées. Il faut que ça soit un message d'appui clair. Il faut que M. Couillard fasse le discours de sa vie. T'as plus le choix, là. T'es pris dans une tempête. Et il faut que tu te sortes de ça. Il faut que tu mettes les nouveaux visages que t'as amenés. Il y en a pas beaucoup, mais il faut que t'y mettes aussi.
Est-ce que les caméras seront sur M. Couillard ou sur Mme Anglade et M. Taillefer?
Non, je pense pas qu'on aille jusque-là. Moi, je pense que M. Taillefer, par exemple, on doit le surveiller de très près parce qu'on doit avoir peur de certains de ses dires. Mais je pense que pour M. Couillard, peu importe le discours qu'il fera... Il est un peu tard pour lui en ce qui concerne justement cette loyauté-là. Le leadership de Philippe Couillard, ça fait longtemps qu'il est contesté. On le voit, les départs en sont une...
Mais il ne faut pas que ça paraisse au Congrès. Il faut que ça soit l'image contraire qui
paraisse. Mais je pense pas que l'impact sur la population, peu importe le parti qu'il y aura là-bas, va avoir vraiment beaucoup d'impact.
Merci beaucoup à vous deux. Au plaisir de vous retrouver demain avec les prix Orange et Citron de la semaine.
Merci, bonne journée.